Présence, le grand entretien.
Isabelle, il y a 100 ans, disparaissait un célèbre graveur et céramiste.
Et oui, nous ferons mémoire le 6 mars de Gaston Virban, graveur et céramiste toulousain. C'est l'anniversaire de sa mort. Les églises de Saint-Nicolas, Saint-Exupère, la Dalpade, la Dorade dans la Ville Rose, celle de Saint-Sulpice-la-Pointe dans le Tarn et j'en passe, sans oublier les châteaux de la région, lui doivent des œuvres hors du commun que nous détaillons ce matin avec Nelly Dessault. Bonjour madame. Bonjour. Vous êtes historienne de l'art et de l'architecture du 19e et 20e siècle et spécialiste de la dynastie Virban. Vous êtes aussi historienne de l'association Les Amis de Virban. Gaston Virban fait partie d'une grande famille d'architectes et de décorateurs qui a contribué à l'embellissement de monuments de notre région dans les années 1830-1860. Quelle réalisation emblématique pouvez-vous nous citer pour qu'on puisse se situer dans cette œuvre ?
Alors, le grand-père de Gaston était Jacques-Pascal Virban, l'architecte de la ville de Toulouse pendant 50 ans. On lui doit la place du Capitole, la place Wilson, la restauration et l'entretien de toutes les églises, d'abord sous l'Ancien Régime, puis après la Révolution, ce qui ne fut pas une mince affaire. Et on lui doit, bien sûr, la suppression des boulevards, enfin des fortifications, et donc la création des boulevards, la création de la rue des Allées Jean Jaurès, et les alignements d'un certain nombre de rues, comme la rue des Marchands, la rue Saint-Antoine-du-Thé, la création de tout un tas de petites places au
centre-ville
de Toulouse.
Beaucoup d'urbanisme.
Voilà, beaucoup d'urbanisme. C'est un ingénieur et il a fait œuvre aussi d'urbaniste et un architecte, bien sûr.
Voilà. Alors, à la génération d'en dessous, avec donc le père de Gaston, Auguste.
Donc, Jacques Pascal a eu 5 fils, dont 2 qui furent architectes. François, qui devait prendre sa succession et qui a continué une carrière privée et une carrière d'architecte des hôpitaux de la ville. Et puis Auguste, qui avec ses 3 autres frères ont monté une briqueterie un peu spéciale qui se trouvait à Launaguet, au nord de Toulouse. Et cette briqueterie, il la monte en 1830. C'est une briqueterie qui a pour mission de copier et de dupliquer et d'offrir au plus grand nombre, à un petit prix, des œuvres célèbres d'ornements qui sont réalisées en terre cuite blanche, pour imiter la pierre, essentiellement, puis en terre cuite rouge, mais ça c'est secondaire, l'essentiel de sa production c'est de la terre cuite blanche, et cette duplication se fait donc essentiellement à partir de moulages, ou bien à partir d'une invention qu'il met au point, qui est la plinthotomie, c'est-à-dire c'est une sorte d'emporte-pièce qui découpe la terre cuite, et qui permet d'avoir donc des décors à petit prix disponibles pour les maçons qui n'ont plus besoin de sculpter la terre
à gain de temps
sur place. Voilà.
Donc là, il n'y avait pas tellement de travail de création puisque c'était plus de la duplication, comme vous dites. Donc c'était modèles qui étaient déjà existants.
C'était de l'ornement en série. C'était l'ADN de cette manufacture. Donc tous ces céramistes qui travaillent de 1830 jusqu'en 1870 à peu près, aucun n'a eu d'enfant sauf Auguste. Auguste a eu 5 enfants, dont seulement 2 ont survécu, Gaston, l'aîné, et puis la petite dernière qui était Marie. Voilà. Et donc Gaston va reprendre l'entièreté de la manufacture tout seul. À partir de 1857. Il est né en 1837, donc il n'a pas tout à fait 20 ans lorsque son père Auguste meurt. Et il est à ce moment-là en formation à Paris, après avoir été formé ici à Toulouse à l'école Sainte-Marie, puis à l'école des Beaux-Arts. Et puis il part à Paris, pas du tout pour faire une formation d'architecte comme son père ou son grand-père, mais pour faire une formation d'ornemaniste et de céramiste.
Donc là, il a pris une option différente de son père.
Il prend une option complètement différente. Je pense que son père ne
l'approuvait pas forcément.
Si, je pense que c'est lui qui l'a aiguillé, mais je pense que son père ne pensait pas sûrement décéder aussi jeune, oui. Et qu'il ne pensait pas avoir... il pensait continuer son œuvre d'architecte encore quelques temps.
Oui. Et cette mort précoce a fait que Gaston Virbin a dirigé seul la manufacture pendant 54 ans, ce qui est quand même assez long.
Oui. Oui. Au début, il continue avec ses oncles pendant à peu près une dizaine d'années, qui s'éteignent peu à peu, et donc il prend de plus en plus d'importance dans la manufacture. Mais à partir de 61, il est effectivement dans on le voit apparaître dans les statuts de la manufacture en tant que partenaire à égalité avec ses oncles. Et donc en 57, il est à Paris où il est formé par un très grand ornemaniste qui est Liénard et par un céramiste qui est lui aussi un émailleur qui est Joseph Devers, qui est un Italien qui a beaucoup travaillé à Paris. Il a eu pour élève entre autres Théodore Deck et Claudius Popelin qui étaient de très grands céramistes, tous les deux qui ont écrit des traités de céramique.
Madame Dessault, à propos d'Italie, il faut peut-être préciser que Gaston Virbin est parti lui aussi en Italie pour continuer sa formation. Et de quelle manière ça l'a impacté ?
Alors, quand son père meurt, il n'est pas obligé de rentrer à Toulouse tout de suite puisqu'il y a encore deux de ses oncles qui sont vivants. Et il peut donc faire un petit voyage. Ce n'est... la suite du Grand Tour, si l'on peut dire. Donc, il fait un voyage en France, déjà, pour voir un certain nombre de cathédrales, Amiens, Reims, etc. Il ramène des moulages, encore, beaucoup de croquis. Et puis, il va, bien sûr, en Italie. Il retournera en Italie très, très souvent. Bon, j'ai calculé qu'il retournait en Italie à peu près tous les 2-3 ans.
Ah oui.
Étudier bien sûr les céramiques de Della Robbia, mais Michel-Ange bien sûr, Luini, tout le Quattrocento en particulier, et un petit peu l'art baroque italien. Et puis il va étudier aussi plus tard dans sa vie les mosaïques de Ravenne qui vont considérablement l'impacter, puisque grâce à cela il va pouvoir réaliser non pas des mosaïques parce que c'est trop cher, il l'écrit dans une lettre à un de ses amis, il dit c'est trop cher, jamais on ne m'en commandera, mais il y a ce mouvement d'art qui est un petit peu oriental au 19e siècle, et il va essayer d'imiter la mosaïque en faisant des fonds dorés. Il apprend à mettre des feuilles d'or sur les céramiques. Et puis, il dessine des petits carrés sur les fonds d'or.
C'est une fausse mosaïque. Alors.
Voilà, c'est une fausse mosaïque. C'est ce qu'on peut voir, par exemple, sur le retable de Notre-Dame de la Vierge Noire.
À
la Dorade. Ou ce que l'on peut voir aussi à la cathédrale, de Valence d'Agen. Là, c'est pareil, il y a un grand...
un chemin de croix, voilà.
Qui fait donc tout le tour de l'église en hauteur et qui poursuit le cul de four qui est doré de cette église. Il est poursuivi par le chemin de croix qui est sur fond doré.
Donc là, Valence d'Agen, vous dites.
Oui.
D'accord. Alors, évidemment, certains Toulousains, enfin, on va dire tous les Toulousains connaissent le tympan de l'église Notre-Dame de la Dalbade au cœur de la Ville Rose. Et pour ceux qui seraient un petit peu plus loin et pour leur donner peut-être envie de découvrir cette œuvre majeure de Gaston Virbin, est-ce que vous pourriez nous la décrire et nous dire en quoi elle est caractéristique de son style ?
Alors, elle est particulièrement intéressante, d'abord parce que c'est quelque chose que tout le monde a un petit peu oublié maintenant, mais jusqu'au 19e siècle, jusqu'au milieu du 19e siècle, le tympan était libre, était vide, il n'y avait rien. Et donc, au 19e siècle, l'archéologue Alexandre Dumège se désolait de voir son état Et l'architecte de la ville, André Donat, avait proposé de réaliser une fresque pour orner ce tympan. Et puis, à partir de 1860, on a placé 8 statues dans les niches qui étaient libres. Et enfin, en 1878, Gaston Virbin a offert ce tympan magistral, puisque c'est un tympan qui fait quand même plus de 7 mètres de long sur un peu plus de 3 mètres de haut.
Coloré.
Très coloré, voilà. Alors, c'est une seconde version de ce tympan. Il avait proposé la première version, toujours en 1878, pour l'exposition qui avait lieu à Paris, exposition des Beaux-Arts et de l'Industrie. C'était une version monochrome. Les personnages étaient en émail blanc sur un fond de ciel bleu. Ça avait été un petit peu critiqué. Il n'avait pas eu le premier prix, juste un second prix. Mais c'était une première version qui a été appréciée quand même, puisqu'elle a été achetée par la maréchale MacMahon, qui l'a offerte à l'église de l'enfant Jésus, de Jésus enfant plus exactement, qui dépendait de Sainte-Clotilde, rue Lascazes à Paris. Voilà. Et elle se trouve à l'intérieur de l'église. Si un jour nos auditeurs y vont, ils peuvent pousser la porte et la voir.
Donc cette création, elle est, si vous pouvez nous la décrire en quelques mots, elle est très...
Oui, alors elle est inspirée d'un tableau, enfin d'une peinture sur bois de Fra Angelico. Elle ne comporte que la première, que la partie du dessus de ce tableau de bois. Il s'agit donc du couronnement de la Vierge. Gaston Virbin a privilégié les anges qui entourent le couronnement de la Vierge. La Vierge est au centre avec le Christ. Elle est agenouillée sur les gradins. Le Christ est lui assis, trônant sous une architecture gothique, trilobé. Et là, on a énormément de couleurs. C'est un bas-relief qui est fait d'après ce tableau, où on donne la perspective avec des personnages qui sont en premier plan en pied, et puis derrière, on voit des personnages en buste, et tout au fond, on voit juste la tête des anges, par exemple. Et puis, il y a bien sûr les gradins sur lesquels le Christ et la Vierge sont installés, qui donnent aussi cette perspective, ainsi que cette petite architecture du dé sous lequel ils sont placés les personnages
principaux.
C'est une
vraie mise en scène, en tout cas.
Hein. Voilà. Oui. Et tous ces personnages ont des couleurs pastel, plus claires que les personnages initiaux, qui avaient des couleurs beaucoup plus vives.
Là, c'est des couleurs pastel. Est-ce que ces couleurs ont bougé avec le temps?
Non, je ne pense pas. Je pense que
la céramique résiste au temps. Et
oui, voilà. C'était l'atout majeur de la céramique, et ça a été beaucoup exploité dans la deuxième partie du 19e siècle. Les architectes préfèrent cette solution à une solution de peinture, à fresco, parce qu'ils disent que
ça résiste mieux, dans
ça résiste mieux aux intempéries. Et donc, beaucoup de tympans dans la région parisienne ont été réalisés comme cela. Mais dans la région Midi-Pyrénées aussi, le tympan de Bruguière, le tympan de la chapelle de Pompignan, des tympans aussi dans la région de Nîmes ou de Béziers, ont été réalisés par les Virbin avec cette technique de l'émail.
Voilà de quoi voyager et découvrir toute l'œuvre de cette dynastie Virbin, puisque nous fêtons donc le 6 mars, nous commémorons les 100 ans de la mort de Gaston Virbin, mais évidemment toute l'œuvre de cette manufacture ne s'arrête pas à lui. Je signale, Madame Dessault, vos deux ouvrages, La dynastie Virbin, une histoire de terre, et La manufacture Virbin, l'art sacré, tous deux aux éditions Terrefort. Ils peuvent se trouver en bibliothèque et puis dans certaines librairies, en tout cas pour le second. Merci beaucoup Nelly Dessault de nous avoir parlé de ce Gaston Virbin ce matin.